Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouvel épisode d'Au fil des bobines. Au fil des bobines, c'est l'émission de Cinéphile. Et aujourd'hui, nous vous proposons des avis sur la programmation de mars. Mois de mars, très jolie programmation donc au cinéma Les Lobbies, organisée par Cinéphile. Avec déjà un premier film qui est déjà passé la semaine passée, qui était un très beau film qui s'appelait Abel. Abel, c'est un film kazakh. On projette assez peu de films originaires du Kazakhstan en France. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu, il y a 4 ans, un joli film qui s'appelait A Dark, Dark Man, qui était un film aussi kazakh. On connaît mal le cinéma kazakh en France parce qu'il est peu distribué, mais c'est un cinéma assez dynamique en Asie centrale, sachant que le Kazakhstan est un des pays les plus économiquement avancé dans cette région. Et là, avec Abel, c'est une page d'histoire qui nous est proposée par un tout jeune réalisateur qui s'appelle Elzat Eskandir. Et c'est en fait l'histoire d'un berger qui voit tout son travail des années passées qu'il avait effectué au sein d'une ferme collective être complètement mis à mal par la privatisation qui a débuté après l'accès de la République du Kazakhstan à l'autonomie, à l'indépendance, après donc 1991. Et donc c'est la privatisation à outrance, le dépeçage de toutes les fermes collectives, de toute la richesse du pays, notamment là c'est la richesse au niveau du bétail, des ovins. C'est assez poignant. C'est très très bien interprété par des acteurs qui sont probablement non professionnels pour la plupart, mais qui campent vraiment des personnages tout à fait authentiques. Il y a des rôles de méchants qui sont des vrais méchants apparatchiks. Et c'est filmé de manière classique, mais très jolie, parce que c'est très horizontal, puisque c'est des grandes steppes. Donc avec une caméra très horizontale, des plans lents, et à notre côté, où on rentre à l'intérieur des maisons, et là, on est au plus proche des gens, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils éprouvent. Un très joli film que nous avons beaucoup de plaisir à présenter dans notre sélection cinéphile. Je vous invite à essayer d'aller le voir, puisqu'il est sorti sur les écrans depuis peu, et vous pourrez aller le retrouver, pas tout de suite, en cassette, en cassette. Tu m'enlèveras ça.
Ah, ça y est, t'es grillé.
Voilà, Abel.
On ne peut plus cacher son âge.
Alors, ensuite, un événement unique, une projection unique de Wives. Donc, ce sera le lundi 9 mars. Séance unique pour un film qui est assez particulier. Qui dans la troupe, puisque nous avons aujourd'hui le plaisir que je n'ai pas présenté, d'avoir Hervé avec nous. Bonjour Hervé, d'avoir Valérie.
Bonjour.
Bonjour Valérie, et d'avoir Jean-Claude.
Bonjour.
Sous la haute surveillance de notre Valentine. Wives, un film d'Anja Breien. Qui pourrait nous en dire quelques mots, Valérie?
Oui, donc le synopsis, c'est en fait un récit de trois jeunes femmes, amies d'école, qui décident de s'affranchir de leur statut de femme, donc en fait en faisant une escapade. Alors donc la réalisatrice norvégienne commence par ce film-là en 75, donc une trilogie qui va se terminer en 1996 sur la condition féminine. Donc dans ce premier film, qui est un film patrimoine, il y a une large évocation de la condition féminine des années 70. Ensuite, donc en 85, elle fait un nouveau film qui a pour titre « Wives 10 ans après ». Et là, elle retrouve les mêmes protagonistes, donc les mêmes trois femmes, qui sont un petit peu dans le même move que dans le film précédent. C'est-à-dire qu'en fait, elles quittent de nouveau leur responsabilité. Elles s'installent dans un hôtel luxueux de Norvège. Et en fait, en 1996, elles terminent cette trilogie avec un film qui s'appelle Ustrian 3, et qui est un petit peu le résumé de sa manière de filmer donc l'émancipation féminine dans son territoire norvégien.
Alors rappelons que ce film, nous le projetons aussi dans le cadre de la semaine Elle et pour la journée des droits de la femme, hein, donc, puisque c'est un film qui fait, on dit souvent, qui fait le pendant féminin d'un film de John Cassavetes qui était Husbands, qui est paru juste avant, en 1970. Voilà, donc n'oubliez pas, lundi 9 mars, 20h30, pour cette projection unique de Wives. Ensuite, nous changeons de décor, mais non pas d'intérêt, avec un film anglais, irlandais, Christy and His Brother, un film de Brendan Canty. Et on va tout de suite entendre quelques extraits, un extrait de la bande originale.
Hitting you faster than garbage, ripping an iron up. We stay sharper no matter the mind scatter, no matter the brain batter, grey matter stays active. Tactics, the machina. Smashing those cash in hand, flashing the pan, fashion fans, acting a man badly. Keeping it rugged like pebble dashes, rubbing your knuckles, running ruckus, looking for fucking buckets of duckets, you know. All I wanna do is live like the other half do, so we can stay buckled on booze, nothing to lose but a few screws up in the roof. If I have to, that's what I'll do to pass through, I ask you. My Dutch in is riffing like bitch and biddies, bickering like little kiddies, switching lyrics with gimmicks. I'm only in it to try and stable the frame. Every now and again, I just flip it to stay sane, you know. I just wanna split riffs with the gifted, hit splits, get blitzed and keep lifting. No pausing, no stalling, keep it going till 25 o'clock in the morning. I'm gonna blast it until I'm past the last kick. Raise the glass and stay laughing. No pausing, no stalling, keep it going till 25 o'clock in the morning. And when I flow, I roll like an evil wheelies, freely, like hippies on Harleys, spliffing up Marleys, it's easy. Once I kickstart it, I'm charging, you can't par me with that kindergarten jamming. So talk all that rah-rah, you have to put your bandana, don't make ya a gag for your chance. Now you're bullin' cause you couldn't pull it from your skull to your gullet and run it like this fucking Colgy Muller from Culler. Send them see me slobbering till I'm full of home, throwing Tuller more June, no problem. Any week rhymes, a rabbit and won't be happening. School skipping, skedaddling, scatter before the battle. I'm living it for the patties of pity, sipping the Guinness. You know we're in it every minute from beginning to finish.
Un extrait donc de la BO, ou du moins de la BO qui a peut-être été utilisée aussi pour le court-métrage Christie. C'est vrai que c'est un peu de rap, ça change, c'est pas toujours ce qu'on entend sur Au fil des bobines, mais c'est aussi montrer qu'à cinéphile, on n'a pas peur d'écouter de la musique de maintenant. Hervé, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Je sais que tu as beaucoup apprécié Christy and His Brother.
Oui, j'ai beaucoup aimé ce film, je l'ai défendu ardemment. Je suis content qu'on l'ait sélectionné, et en plus, on va faire aussi une séance avec un certain nombre de lycéens. Et voilà, ça me fait plaisir. C'est un film donc irlandais d'un jeune réalisateur. C'est son premier long métrage, Brendan Canty. Et il a le scénariste, il l'a écrit avec un de ses amis, Alan O'Gorman, qui est un ami. Ils sont amis depuis l'âge de 5 ans, tous les deux. Donc c'est vraiment un suivi d'amitié. Et ils sont originaires de ce quartier de Cork en Irlande, qui est un quartier ouvrier. Et voilà, le film se déroule évidemment dans ce quartier-là. C'est un très beau film, très émouvant, très lumineux, même s'il est un peu sombre au début, puisque c'est un jeune placé dans une famille d'accueil qui, à 17 ans, fait le coup de poing dans cette fameuse famille et se fait virer et se trouve rejoindre son demi-frère aîné. Qui vient d'avoir un bébé, qui est avec sa jeune femme. Et voilà, la cohabitation est un peu compliquée. Christy redécouvre une partie de sa famille qui n'est pas, qui est assez sombre, qui est un cousin, un aîné qui est plutôt chef de gang. Et puis il découvre aussi toute une bande d'adolescents et d'enfants qu'il adopte. Voilà. Et le film, qui pourrait faire penser au début un peu qu'à un Ken Loach, vit assez différemment parce qu'en fait, c'est plus pendant le déroulé du film une espèce de thriller, puisqu'on ne sait pas comment Christy va. Vers quel côté il va basculer, en fait. Il est pris entre deux feux et il est très désespéré. C'est un personnage qui a beaucoup souffert et qui découvre tout doucement l'environnement dans lequel vivait sa mère avant de décéder. Et voilà, il découvre en fait une communauté, des femmes qui sont très solidaires, des enfants, des pré-ados, des ados qui sont très solidaires. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un très très joli film, et plutôt une réussite pour un premier film, et puis accompagné par des raps assez sympas, et vraiment les acteurs sont vraiment très beaux. Outre le premier rôle de Danny Power, vraiment tous les ados, tous les enfants, et même les adultes d'ailleurs, c'est vraiment des jolis personnages très bien interprétés.
Oui, un film... super dynamique, je crois, avec une espèce d'ambiance quand même, de pulsation.
Voilà, alors ça n'est pas dès le début. Hein. Au début, c'est plutôt difficile. Le démarrage est plutôt compliqué, comme l'est la vie de Christy. Mais voilà, c'est un éveil pour lui.
Ça sera donc un petit passage en Irlande, et c'est toujours bien d'entendre... l'anglais parlé par les Irlandais.
Oui, il y a un très bel accent.
Et on va maintenant complètement changer de registre. On va revenir un petit peu plus dans la partie orientale de l'Europe avec le retour du projectionniste qui se passe du coup en Azerbaïdjan, je crois. Et c'est Valérie qui avait vu ce film en pré-programmation et qui nous en a dit le plus grand bien. Valérie, qu'est-ce que tu aurais à nous... donner envie d'aller voir le retour du projectionniste.
Alors déjà, le contexte du visionnement du film, en fait, c'est un film que j'ai vu donc aux rencontres ACC des cinémas du centre. D'ailleurs, c'était Christy and His Brother, c'est aussi un film qu'on a vu à l'ACC, donc ce qui nous permet de faire un tri sur les films qu'on va programmer. Donc celui-là, ça nous a vraiment bien plu. On était une petite... dizaines de personnes à l'avoir apprécié. Donc, le cinéaste, il est né en Azerbaïdjan, il a à peu près 30 ans, il a fait quelques courts-métrages et puis un long-métrage de fiction, et là, il fait un court-métrage qui est à la fois entre le documentaire et la fiction. Donc, en fait, l'histoire, rapidement, c'est la rencontre de deux passionnés de cinéma. Donc plutôt un vieux projectionniste qui détient donc un vieux projecteur argentique, et puis un jeune Ayaz, donc qui est passionné de cinéma mais plutôt avec tous les instruments d'aujourd'hui, c'est-à-dire le numérique, etc. Donc c'est la rencontre de ces deux personnes. Donc leur but, c'est de faire revivre un cinéma dans un village perdu des montagnes d'Azerbaïdjan. Et donc, voilà, on est transporté dans cette histoire. Alors, avec des images, donc, la première image du film, on voit une montagne enneigée et puis quelqu'un qui tire un âne sur lequel est le jeune Ayaz qui a un ordinateur. Et en fait, il grimpe la montagne jusqu'à obtenir la connexion Internet. Donc, ça nous plonge directement dans le film. Et donc, il est à la fois drôle et émouvant, ce film. Et il parle aussi de la transmission intergénérationnelle, avec des personnages hauts en couleur, et notamment ce duo de protagonistes dans les personnes de Samid et Ayaz. Le but, c'est aussi de faire revivre un village qui est habité plutôt par des personnes âgées, etc. Donc c'est revivifier les liens et redonner aussi du sens au collectif. Voilà, c'est vraiment le collectif qui permet de redonner vie à ce village par le prisme du cinéma. Et puis c'est la rencontre aussi avec les techniques, donc à la fois l'argentique, comme je l'ai dit, et puis le numérique, avec tout son lot de problématiques. Hein. Par exemple, à un moment donné, ils sont à la recherche d'une lampe pour faire fonctionner le vieux projecteur. Donc la lampe, il la commande, mais il faut au moins 6 mois pour l'avoir. Ils sont obligés d'aller la chercher dans la ville, dans la grande ville, etc. Donc c'est aussi intéressant parce qu'il y a des mouvements de géographiques qui nous transposent un petit peu partout. Alors ce film-là, il nous fait penser aussi à tous les films qui louent la magie du 7e art et puis la transmission. Donc on ne peut pas ne pas penser à Cinéma Paradiso quand on voit ce film-là. Donc Cinéma Paradiso, le film de Giuseppe Tornatore en 1988. Mais ce qui mettait en scène donc le petit Toto et puis le fameux Alfredo qui faisait entrer Toto dans la salle de projection. Mais là, on était plus du côté de la nostalgie dans ce film-là. Tandis que là, le retour du projectionniste, c'est un autre regard qui se tourne plutôt vers l'avenir, la rencontre des générations, et puis de montrer que le cinéma, c'est un collectif et que c'est créatif et surtout magique. Donc, on vous conseille vivement d'aller voir ce docu-fiction qui nous a vraiment bien plu.
Oui, qui est vraiment sur comment faire du cinéma avec peu et de l'inventivité, du bricolage. Très joli film. Et puis aussi, qu'est-ce que veut dire le cinéma, en effet, pour un groupe, pour un collectif? Et ça, il y a une vraie dimension du renouer avec le collectif, comme tu disais, qui est assez forte dans ce film. C'est donc le retour du projectionniste que vous aurez le plaisir de voir sur les écrans dans la semaine cinématographique du mercredi au mardi. Donc ce sera du 16 au 24 mars. Et puis après, avec Cinéphile, on se balade en Azerbaïdjan, en Irlande, et puis on va se balader aussi en France et on va se balader dans le monde rural. Et pour un film qui justement s'appelle Rural, et nous allons d'abord entendre sa bande-annonce.
Ça va ?
Alors, on bloque tout ?
Oui.
C'est vrai ?
Je suis prêt.
Je suis ravi de vous retrouver après mon premier film au nom de la Terre avec un documentaire cette fois.
Un agriculteur est devenu le visage de la contestation.
Tu réponds parce que je crois que ça sonne souvent.
Jérôme Bail.
C'est un agriculteur que les journalistes ont beaucoup aimé.
C'est quoi la question?
Les revendications.
Je l'ai fait 860 fois. T'as pas autre chose? Change.
Et sa maman Lulu qui a 75 ans, c'est un personnage.
Allez! Pourquoi tu me fais parler?
Oh, écoute-moi.
Il partait où, Jérôme, alors?
Si le monde rural n'existe plus, s'il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de monde rural. Et c'est l'histoire de la France qui s'en va. Il me tenait la main, j'ai broyé la main. Je garantis qu'il est couiné.
Bien, bravo. Il veut être libre, c'est normal. Au moins, tu peux t'exprimer quand tu es libre.
Moi, ce que je veux, c'est construire. Et pour construire, il faut parler.
Le sentiment, on va s'en sortir. On sera obligés d'en sortir parce qu'on mérite pas de crever.
J'ai passé plus d'un an avec Jérôme Bail, avec une petite famille aussi et un petit garçon qui a peur des vaches.
C'est mon petit voisin, c'est un petit qui a découvert l'agriculture depuis 6 mois.
Bah, comme ça.
Et c'est un peu, on va dire, l'enfant que j'ai pas.
Vous avez voulu envoyer un message et je suis venu vous dire qu'on ne vous lâchera pas.
Vous ne vous lâchera pas non plus. On a prouvé qu'ensemble, on avait réussi à faire des choses.
Rural, que vous pourrez voir du 23 au 31 mars. Jean-Claude, je sais que tu as vu ce film et que tu l'as beaucoup aimé, puis tu nous as même projeté un petit événement. Alors, qu'est-ce que tu aurais à nous dire à propos de Rural?
Oui, alors Rural, c'est vraiment un film que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est un film d'Édouard Bergeon. Alors, Édouard Bergeon, beaucoup d'entre nous, certainement, l'ont déjà découvert dans une fiction qui s'appelle Au nom de la Terre, avec Guillaume Canet et Rufus. Jérôme Bail, là, c'est un film, un documentaire qu'il nous présente avec un personnage qui vraiment crève l'écran. On vient de l'entendre là sur la bande-annonce. C'est un personnage plein de dignité, plein d'humanité. Alors c'est un ancien rugbyman. Ça va se sentir dans la prestance qu'il peut avoir face à des gens qu'il a besoin de convaincre. Son accent du sud-ouest, bien sûr, il est inimitable et il participe du personnage. Et puis bon, quand on le voit dans le film, casquette à l'envers, tout ça en fait un homme absolument charismatique, beaucoup plus un homme homme qu'un militant d'ailleurs, parce que comme il vient de le dire à l'instant, comme il veut que les choses changent, eh bien il est tout à fait ouvert à la discussion et il n'hésite pas à affronter des gens qui ne sont pas loin de là dans la même ligne de pensée que lui par rapport à ce que l'agriculture, ce qu'il souhaite faire de l'agriculture. Donc c'est quelqu'un avec des valeurs simples. Lui, il en a parlé par rapport au petit garçon, le fils qu'il n'a pas, les valeurs de transmission, l'envie de partage et puis cette solidarité aussi qui existe dans les villages, parce que quand on est dans un village rural loin de la ville, eh bien si on veut vivre correctement, il faut aussi savoir s'aider entre voisins. Ça, c'est des choses que le film montre aussi très bien à la marge. Donc là, on est dans une agriculture familiale, dans une région que moi, je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle le Volvestre. Et puis, on a beaucoup parlé d'eux lorsqu'ils ont créé, les agriculteurs, ce qu'on appelle le collectif des ultras de l'A64. Les ultras de l'A64, c'est des gens qui ont fait un barrage sur le lieu qui s'appelle Carbone, le barrage de Carbone. Ils ont tenu pendant 10 jours, alors qu'au départ, ils étaient venus là seulement avec leur tracteur pour tenir sur une journée. C'est un barrage, c'est une autoroute, l'A74, qui se trouve entre Toulouse et Bayonne. Et donc, ça fait partie des mouvements agricoles qui ont lieu en France au mois de janvier 2024. On est en Haute-Garonne, et c'est très important parce qu'à ce moment-là aussi, c'est les élections qui vont avoir lieu à la Chambre d'agriculture et les élections aux Chambres d'agriculture, ça se produit tous les 6 ans. Donc là, vraiment, c'est un moment extrêmement important puisque le collectif des ultras, ils sont absolument en dehors des syndicats, des mouvements syndicaux. Ils vont se présenter. Ils vont présenter un certain nombre d'agriculteurs en essayant d'être élus à cette chambre d'agriculture, ce qui vraiment créerait une véritable révolution au sein du monde paysan de cette région, puisque jusqu'à présent, c'est tenu par la puissante fédération FNSEA. Donc on partage durant tout le film la vie quotidienne de ce Jérôme Bail. Alors c'est vraiment un happening permanent, c'est le gars qui a vraiment le sens de la punchline et c'est vraiment génial de le voir pas du tout effrayé par, alors que c'est quelqu'un qui est pas du tout habitué au monde politique. Et là, il va carrément rencontrer des gens comme Gabriel Attal. Alors donc là, il y a une séance absolument magnifique. On le voit entrer dans le bureau de Gabriel Attal et mettre l'ambiance vraiment au sein de ce monde de cravate et de costard en leur faisant des blagues tout à fait décontractées, quoi. Pareil lorsqu'il rencontre Macron qui au début le prend de haut, Macron qui le tutoie, ce Jérôme Bail, et lui se laisse pas du tout décontenancer, il lui tient la main, c'est quand même le président de la République, il la lâche pas, il le regarde droit dans les yeux et il lui dit ce qu'il a à lui dire. Et on voit quand même que là c'est Macron qui commence petit à petit à être mal à l'aise. Donc c'est vraiment des séances absolument inoubliables. Il va aussi rencontrer Marine Tondelier, donc représentante du mouvement écologiste, alors que bon, lui, Jérôme Bail, il est loin d'être tout à fait d'accord avec ce mouvement écologiste. François Ruffin, Yaël Braun-Pivet, donc tout ça, c'est des gens qu'on voit durant le documentaire et que Jérôme Bail va inviter ou va auquel il va se trouver confronté sans aucune gêne, quoi. Donc c'est absolument admirable. Alors en plus de se confronter au monde politique, Jérôme Bail, il effraie aussi le monde agricole. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il va le prendre le TGV pour aller à Paris, on le voit donc traverser la Beauce. Et lui, ses immenses cultures, c'est pas du tout ce qu'il entend défendre, c'est pas du tout ce qu'il voit comme un avenir enviable pour l'agriculture française. Alors là, il y a un moment quand même qui peut être un petit peu effrayant dans la mesure où on voit la rencontre avec Arnaud Rousseau, qui est donc le puissant président de la puissante FNSEA, qui lui va défendre l'agro-industrie contre une agriculture rurale et familiale, et qui essaie de démontrer à Jérôme Bail que sa vision n'est pas une vision d'avenir et que sa lutte, elle est absolument inutile. Et là, on se demande jusqu'où Jérôme Bail va pouvoir aller vraiment dans la défense de la ruralité. C'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre. Et voilà, donc là, Ceci étant dit, bon, c'est quand même un film qui est plein d'humour, plein de tendresse. On a vraiment un portrait très sensible des différents personnages qu'on peut y voir au quotidien. On pourrait citer la mère Lulu, qui est aussi une personne âgée qui a vécu toute sa vie dans le monde du travail, qui au moment de sa retraite, de toute façon, n'a pas abandonné le travail à la ferme et qui a elle aussi un franc-parler absolument admirable. Et c'est aussi, je disais, quand on voit la maison dans laquelle ils vivent, le réalisateur Édouard Bergeon disait « Si moi, je voulais réaliser un film de fiction pour montrer ce qu'était une ferme dans les années 70, je ne changerais rien de décor. » Et même, on me dirait « Bah non, mais là, t'en fais trop, parce que c'est vraiment, on est trop dans les années 70. » Et c'est vraiment dans son jus, quoi. Alors, par contre, comment Édouard Bergeon a-t-il pu, sur un temps long, bien sûr, suivre la trajectoire de Jérôme Bail? Il faut savoir qu'Édouard Bergeon, c'est lui-même le fils d'un fermier, d'un agriculteur. Et c'est ce qu'il raconte dans « Nom de la Terre », son film de fiction, qui est beaucoup inspiré par justement son père qui s'est suicidé, parce que effectivement il a été pris dans cet encouragement qu'on leur donne institutionnellement de voilà, vous réussissez bien dans ce que vous faites, donc faites plus, endettez-vous, achetez plus de matériel, agrandissez-vous, achetez plus de d'animaux, et puis ça se termine par une catastrophe et le père donc se suicide. Et à un moment, Jérôme Bail, qui est vraiment dans la confiance par rapport à un dispositif très léger au niveau du matériel du cinéaste, il s'arrête à un endroit et il parle aussi du suicide de son père. C'est là que mon père s'est suicidé. Et voilà, on rentre dans des choses extrêmement lourdes. Alors, la succession, c'est des voisins qui s'installent, qui viennent de Lorraine, une femme avec ses deux enfants, un petit garçon, une petite fille, un petit garçon d'une dizaine d'années. Et ce petit garçon, lui, au départ, il passe des heures, comme chaque jour, sur des jeux, sur son ordinateur. Et petit à petit, Jérôme Bail va l'initier au plaisir aussi qu'on peut avoir à travailler avec des animaux, avec du matériel agricole. Et ce petit gamin, à la fin du documentaire, on apprend que l'enfant, il y a une transmission qui est passée entre ce père adoptif, ce père de cœur, comme dit l'enfant, et la joie qu'il peut avoir à apprendre à aller cueillir des champignons, aller à la chasse, aller à la pêche, toutes ces choses que la nature peut offrir et qu'il ne connaissait pas du tout. Et on sent qu'il va être épris de ça. Alors, est-ce qu'il sera agriculteur? On ne le sait pas. Mais en tout cas, il y a une superbe ouverture. Et puis, cette transmission aussi, quand l'enfant il souhaite l'anniversaire à Jérôme Bail, en disant « Toi, tu es mon papa de cœur », on sent quand même quelque chose qui est vraiment extrêmement émouvant. Encore une fois, donc voilà. Je terminerai en soulignant que le film s'est fait aussi avec l'accompagnement de François Purcell, qui a écrit des livres et qui est très pessimiste, parce qu'il dit que si ce que défend Jérôme Bail, en fait, c'est un monde, sauver un monde qui peut aller vers une agriculture sans agriculteur. Et elle serait portée par qui, cette agriculture? Par de gros investisseurs, par de grandes entreprises. Et ça, c'est ce que, quand même, faut le dire, défend la FNSEA, et ce vers quoi on a envie, nous, que le combat de Jérôme Bail soit un combat qui se termine bien, quoi, parce que, encore une fois, on croit à ces choses-là. Alors, je dirais aussi que, évidemment, moi, j'ai tout de suite pensé à des gens qui, dans le Loir-et-Cher, défendent cette ruralité.
Cette agriculture.
Donc, il y aura Bertrand Monnier de la Confédération Paysanne qui se fera une joie d'accompagner le film le jeudi 26 mars. Et puis, les gens qui font partie des amis de la Confédération Paysanne, donc, qui seront représentés par Jean Colly, qui lui aussi est fils d'agriculteur.
Et c'est vrai qu'on avait eu envie, à l'occasion de la sortie de Rural, de marquer un peu quelque chose en termes d'événements à Cinéfide. Et donc, merci d'avoir pris contact avec des collègues, des amis de la Confédération Paysanne pour nous donner un petit peu à voir et à entendre une autre manière aussi de faire de l'agriculture, différente de celle de Jérôme Bail, ou mes proches aussi, en tout cas très différente d'un modèle très productiviste qui existe aussi dans notre département d'ailleurs, et en tout cas qui nous ouvrerait aussi à d'autres perspectives d'avenir. Et c'est tout l'enjeu aussi de cette soirée du jeudi 26 mars,
c'est ça, oui.
Au cinéma Les Lobbies. Venez nombreux, ce sera intéressant, ce sera aussi un temps d'échange. Et puis, pour terminer, un petit bonus. Vous savez qu'à Cinéphile, on aime bien vous donner des petits cadeaux, des petits desserts. Et là, on a eu le plaisir de recevoir François-Xavier Drouet pour son film L'Évangile de la Révolution, qui est un superbe film qui passe encore sur les écrans en province. Vous pourrez trouver aussi sous forme DVD dans quelques semaines, probablement en avril. L'Évangile de la Révolution, c'était un très joli film. C'est un très joli film sur l'engagement de laïcs, des prêtres, des sœurs, dans une autre manière de donner toute sa place à la fraternité, à l'Évangile, dans les années 70 et 80, notamment en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Très beau film, nous vous conseillons, nous vous invitons à aller le voir. Et donc, pour terminer, un temps d'interview que nous a accordé François-Xavier Drouet. Bonjour François-Xavier Drouet.
Salut.
Nous avons été très contents et très heureux de t'accueillir hier pour cette séance du 16 de février avec ton nouveau film, ton huitième film, L'Évangile de la Révolution. Est-ce que tu pourrais juste nous dire un petit peu quel a été le fil un peu de départ et de construction de ce film-là? Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin différent quand même de tes autres films?
Alors moi j'ai comme pas mal de gens de ma génération, je me suis politisé avec les luttes anti-mondialisation, la lutte zapatiste au Mexique et l'Amérique latine. C'était vraiment un horizon politique très inspirant. J'ai beaucoup voyagé là-bas dès que j'ai eu 20 ans, notamment au Mexique, au Brésil, au Pérou. Et par ailleurs, j'étais passionné de musique d'Amérique latine. Mais cette histoire de la théologie de la libération, donc de la participation des chrétiens dans les luttes révolutionnaires en Amérique latine, c'est quelque chose à côté duquel j'étais complètement passé. Parce que, moi, j'étais assez anticlérical. Ça s'explique en partie parce que j'ai eu une éducation catholique vraiment pas très épanouissante. Et je suis devenu athée quand je suis devenu adulte. Et puis pour moi, la phrase de Marx, la religion est l'opium du peuple, ça a réglé l'affaire, quoi. Et quand j'ai commencé quand même à m'y intéresser, parce que forcément c'est une référence qui revient tout le temps quand on s'intéresse à l'histoire politique de cette région, je me suis rendu compte que j'avais vraiment rien compris. Et ça changeait complètement mon rapport à la foi d'une manière générale et puis à l'histoire, quoi. Donc j'ai commencé à me documenter, est née l'envie d'en faire un film et puis surtout avec les rencontres que j'ai pu faire, on m'a bien fait sentir qu'il y avait une urgence à récolter une mémoire qui était en train de disparaître, quoi.
Oui, parce qu'il y a de très très belles rencontres dans ce film. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs, comment ça a pu se faire ces rencontres? Tu as eu des contacts, ça s'est fait de bouche à oreille. Est-ce que ça a été difficile de rencontrer ces acteurs qui sont vraiment totalement lumineux dans ce film?
Alors, il y a deux types de personnages dans le film. Il y a des gens qui sont des grandes figures de la théologie de la libération, qui sont des personnes assez connues, comme Leonardo Boff ou Fray Beto au Brésil. Ce sont des intellectuels très en vue. Mais moi, je voulais qu'il y ait aussi des anonymes, quoi, des militants de base qui sont engagés dans les luttes sociales, dans les luttes politiques, dans la résistance à la dictature ou dans des mouvements de guérilla en tant que chrétiens, au nom de leur foi. Ça se fait comme ça un peu. D'abord, je suis allé voir des gens en France parce qu'il faut savoir qu'il y a... Il y a beaucoup de missionnaires qui sont partis dans les années 60, 70, 80 en Amérique latine, des religieuses qui ont participé à ces mouvements, des prêtres ouvriers français, belges, italiens, suisses, des espagnols aussi qui étaient des religieux ou des prêtres antifranquistes et qui partaient en Amérique latine. Donc c'est vraiment une histoire aussi qui est très liée à l'Europe. Puis il y avait aussi tous ces mouvements de solidarité avec ces exilés d'Amérique latine pendant les dictatures qui ont été accueillis et pour certains aussi m'ont aidé. Et puis voilà, bah, une fois sur place, ça se fait, un tel te fait rencontrer telle ou telle personne. Et puis bon, voilà, bon, moi je crois que sur tout ce trajet, j'ai dû rencontrer, je sais pas, bon, c'est des centaines de personnes hein, que j'ai rencontrées parce que ça a été des mois de repérage hein, et beaucoup de voyages. Mais ce qui me guidait un peu dans ma recherche, c'est pour construire le film, c'était évidemment, je voulais que voilà, chaque personnage dans le film porte une question, hein, quelque part incarne un aspect, une dimension de la théologie de la libération et cette participation des chrétiens aux luttes révolutionnaires, mais aussi il fallait que ce soit des personnages de cinéma, donc qu'ils aient quelque chose d'un peu cinématographique, quoi, une lumière, quelque chose dans la présence, dans la voix. C'est pas, si vous voulez, faire un film documentaire de cinéma, c'est pas comme faire un reportage journalistique, quoi. Ce qui compte, c'est pas seulement ce que les gens disent, c'est aussi la façon dont ils le disent. Et ça, voilà, c'est un peu... c'est des rencontres, quoi. Donc c'était ça qui m'animait dans ma recherche. Et parce que oui, il y a cette histoire d'émotion, quoi. Je voulais que ce soit pas un cours d'histoire, mais que, quelque part, c'est une histoire qui puisse aussi ébranler le spectateur.
Et ce qui ébranle aussi le spectateur, c'est toute l'utilisation que tu fais des archives qui sont mêlées aux interviews, enfin au moment de rencontre de maintenant, et qui viennent aussi amener toute une force et une émotion du collectif, parce que c'est des images aussi extrêmement fortes souvent.
Ouais, alors que c'est quand on se replonge comme ça dans ces années-là, hein, où voilà, après Cuba. En Amérique latine, quand même, il y avait toute une région comme ça qui se réveillait de siècles de domination, de colonisation, d'esclavage, avec une aspiration à l'émancipation, à la liberté qui était énorme, quoi, et qui s'incarne dans ces images. Certaines, voilà, des très grands cinéastes ont filmé ces luttes partout dans l'Amérique latine, et donc ce sont des images très très émouvantes. Et que voilà, j'utilise dans le film justement en essayant de en étant guidé par d'essayer de sentir un peu ce vent révolutionnaire, ce vent d'émancipation qui soufflait, et faire que le spectateur le ressente, quoi. Et voilà, ça, on essaie d'articuler ça, de les regarder aussi depuis le présent, quoi, parce que cette situation, voilà, en Amérique latine, effectivement, où quand même on voit un retour du fascisme, hein, depuis pas mal d'années déjà, une criminalisation des mouvements sociaux, comme il y a pu avoir aussi sous les régimes militaires, et puis quelque part une gauche un peu en panne d'utopie, quoi. Mmh. Donc le film essaie de mettre ces deux réalités en dialogue.
Et c'est peut-être pour ça qu'on a senti beaucoup dans la séance d'hier que ça venait aussi résonner dans le présent des personnes qui étaient là, dans quelque chose qui serait presque, alors c'est une parole presque évangélique, mais dans quelque chose qui serait presque de l'espérance dans la question de la lutte. Et ça se termine même sur ça, sur la question de la lutte.
Oui, bah de toute façon, moi aussi je fais ce film là au départ en me posant la question, bon bah voilà, qu'est-ce que ces hommes et ces femmes aussi ont à nous enseigner de leur expérience, même si le contexte dans lequel ils ont lutté est pas le même, hein. Je pars un peu avec cette question là et puis bah oui, à cette histoire d'espérance. Alors espérance, c'est un peu un concept chrétien.
Oui.
Mais on m'a fait comprendre un peu c'est la différence entre l'espoir et l'espérance, quoi. C'est-à-dire que l'espoir, c'est quelque chose, finalement j'ai espoir de gagner au loto. Mais l'espérance, c'est quelque chose d'actif aussi. Quelque chose un peu dans l'idée de ce courant, la théologie de la libération, c'est vraiment organise-toi, le ciel t'aidera, quoi. C'est-à-dire que il y a cette nécessité du collectif, de retrouver cette énergie collective, de partir de sa propre réalité et d'inventer ses propres solutions. Et puis surtout aussi d'être guidé quelque part dans un au-delà du résultat immédiat, quoi. Alors ça veut pas dire on sera bien quand on sera au ciel, non, au contraire, parce que précisément la théologie de la libération, c'est ça qu'elle est venue dire. Elle est venue dire aux pauvres, non, mais en fait tout ce que l'Église vous a raconté jusqu'à présent, faut souffrir sur terre, et puis quand vous serez au ciel, ça ira mieux. Non, ça c'est ici-bas qu'il faut se libérer. Et ben quelque part, en tout cas, surtout de lutter, parce que c'est ça qui fait le sens de l'existence, quoi. De rechercher cette liberté, c'est ça qui fait quelque part l'essence du chrétien. C'est là qu'il s'incarne vraiment, parce que c'est ça que Dieu lui demande. Mais je pense que ça parle aussi à des non-croyants, quoi, parce que finalement on agit aussi en fonction de nos valeurs, et puis on n'agit pas toujours pour avoir un espoir de résultat, finalement, qui est une espèce de contamination de la pensée utilitariste, hein, néolibérale. On peut aussi agir parce qu'on pense que c'est juste, et pour être fidèle à nos valeurs. Et je pense que c'est important de se tenir à ça dans des moments où justement on a l'impression qu'on est écrasé et qu'on voit pas l'issue, quoi.
En tout cas, merci pour ce beau film et aussi cette dimension vraiment touchante de la puissance du collectif. Merci, François-Xavier.
Merci à toi.
Voilà. C'est la fin de cet épisode d'Au fil des bobines. Au revoir à toutes et à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, Hervé. Au revoir, Valérie. Au revoir, Jean-Claude. Au revoir. Merci à Mathilde. Et à très bientôt pour encore vous accompagner dans la programmation des semaines à venir. Et puis, quoi qu'il arrive, même s'il fait beau, surtout n'oubliez pas, allez au cinéma. Au revoir.